Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Lost.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Sauf que là, les coulisses, je vous ai déjà un peu livré. L'année dernière, je vous racontais les coulisses de la création de Lost. Comment Lloyd Brown, le responsable de la chaîne ABC, a eu l'idée d'une série avec des naufragés sur une île. Comment il confie ce projet à J.J. Abrams et Damon Lindelof. Comment ils produisent à toute vitesse un premier développement, puis un script au fur et à mesure du tournage du spectaculaire pilote, un des plus chers de toute l'histoire de la télévision. Comment la première diffusion casse littéralement la baraque avec 18 500 000 téléspectateurs, soit la meilleure des nouvelles séries de toutes les chaîne depuis 4 ans, et le plus gros lancement de la chaîne ABC en 9 années. Et comment, malgré tout cela, Lloyd Brown se fait virer de son poste suite au précédent projet désastreux qu'il a lancé, mais que pour le remercier de sa ténacité, J.J. Abrams et Damon Lindelof lui confient un rôle dans la série, un rôle tenu secret. Previously on Lost. Et ouais, cette voix qui chaque semaine dit « précédemment dans Lost », c'est la sienne. Il restait à vous retracer Lost du début à la fin. Et c'est essentiel de le faire, car Lost a irrémédiablement marqué l'histoire des séries télé en imposant un genre, la série high concept, avec un grand mystère central. Un genre qui fait encore des émules non seulement sur les plateformes de SVOD ou sur les chaînes payantes du style HBO, où les longues trames à suivre sont devenues la norme, mais tout autant dans les séries des chaînes gratuites, comme par exemple avec Manifest, la toute dernière en date, que beaucoup ont lancé comme étant le nouveau Lost. Ensuite parce que le final de Lost, massivement détesté et incompris, renvoie immédiatement au final de Game of Thrones, qui lui aussi a suscité un rejet absolu de tous ceux qui s'étaient tellement impliqués dans la série et qui espéraient leur fin et non pas celle des créateurs. Et cela renvoie aussi au scandale qu'a provoqué en 1969 la diffusion de l'épisode de résolution de la série Le Prisonnier, qui força son créateur, Patrick McGoohan, à fuir la Grande-Bretagne tant la haine à son égard était grande. Donc oui, vous racontez Lost, son développement et son final avec la participation de ceux qui ont été directement impliqués dans la série, ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Lost, c'est le parcours et le destin des passagers du vol océanique 815, reliant l'Australie et les États-Unis. Un vol qui explose et qui s'écrase sur une île tropicale. Parmi les 70 survivants, un chirurgien, Jack Shepard, interprété par Matthew Fox, une ex-rockstar, Charlie, incarnée par Dominic Monaghan, une criminelle, Kate, interprétée par Evangeline Lilly, une jeune fille enceinte, Claire, par Emily Desravins, un arnaqueur, Sawyer, le rôle de Josh Holloway, un paraplégique qui a perdu la foi, John Locke, interprété par Terry O'Quinn, un militaire en Irak, Saïd, rôle tenu par Navin Andrews, un frère et sa belle-sœur, Shannon et Boone, interprétés par Maggie Grace et Ian Somerhalder, un geek gagnant au loto, Hurley, interprété par Rory Garcia, un père et son fils, Michael, avec son jeune fils Walt, Harold Perrineau et Malcolm McDavid Kelley, et un couple au bord de la rupture, Sun et Jean, Eugene Kim et Daniel Dae Kim. C'est eux qui vont initialement être au centre des intrigues, mais ils ne vont pas rester seuls très longtemps, car l'île a déjà des habitants. Dès leur arrivée en catastrophe sur l'île, dans la saison 1 de Lost, les naufragés vont devoir faire face à un ours polaire. Puis ils vont découvrir une créature de fumée noire qui va tuer le pilote de l'avion, puis tenter d'emporter Locke. Ils vont aussi capter un signal radio laissé là par une rescapée française, Danielle Rousseau, interprétée par l'une des vedettes de la série Babylon 5, Mira Furlan, qui vit sur l'île depuis 16 ans. Par les flashbacks, nous découvrons donc que Locke est paraplégique, mais que, à sa grande surprise, il remarche sur l'île. Les conflits vont se nouer entre lui, l'homme de foi, et Jack, l'homme de science. Et un triangle amoureux se dessine entre Kate, Jack et Sawyer. Vers la fin de la saison 1, il est clair qu'il y a d'autres personnes sur l'île, les autres dont parle Rousseau. Certains naufragés comme Sawyer et Jean construisent un radeau pour tenter de quitter l'île, mais tombent sur un bateau avec les autres. Et les autres emportent Walt, le fils de Michael. Jack, Locke et Boone découvrent non seulement un vieux galion échoué en pleine forêt, mais aussi une trappe dans le sol, avec dessus la même suite de nombres qui a permis à Hurley, par le passé, de remporter un gros lot au loto, mais qui a contribué aussi à détruire sa vie. Les nombres sont 4, 8, 15, 16, 23, 42. Une trappe qu'ils vont devoir faire sauter avec quelques-uns des bâtons de dynamite trouvés dans le galion, le Black Rock. Enfin, dans cette première saison, Boone va mourir, tué par la chute d'un petit avion qu'ils ont retrouvé coincé dans les arbres. Et l'interprète Ian Somerhalder sera après la vedette de The Vampire Diaries. Alors que la fin de saison approche, la plupart des critiques amalgament la série avec d'autres, comme La Quatrième Dimension, pour le côté fantastique, Au-delà du réel, pour le monstre, Twin Peaks, pour le mystère central, et Le Prisonnier, pour les survivants retenus sur l'île. Et puis aussi X-Files, pour des éléments inexpliqués. Damon Lindelof reconnaît toutes ses influences. En 2007, au Festival de télévision de Monte Carlo, Terry O'Quinn nous parlait du mystère qui était Lost pour lui, à tel point qu'il en découvrait les ingrédients en même temps que nous. Honnêtement, quand on a démarré, je ne savais même pas au début du tournage que mon personnage était dans une chaise roulante. Ce n'était que dans le troisième épisode que cela a été révélé. Je l'ignorais même alors qu'on tournait le second. Je courais pendant tout le pilote et je ne savais pas que j'étais censé être paraplégique. C'est un peu comme la vie. On nous apporte les choses au fur et à mesure. Moi, je reçois le script, je réagis à ce qui est écrit. Si je ne suis pas heureux, ben, tant pis. Si j'étais scénariste, je n'écouterais pas les doléances des acteurs. La saison 1 est un carton et elle fait près de 18 millions de spectateurs rien qu'aux États-Unis. Elle obtient 12 nominations aux Emmy Awards. Elle remportera l'Emmy de la meilleure série et celui de la meilleure réalisation pour le pilote de J.J. Abrams. Cependant, J.J. Abrams se doit d'abandonner les rênes de la série pour aller tourner le prochain Mission Impossible. Carlton Cuse est maintenant aux côtés de Damon Lindelof, pour qui il avait travaillé sur sa précédente série Nash Bridges. Et avec tous les autres scénaristes, il tente de continuer la saga. Côté budget, chaque épisode de Lost coûte entre 2 500 000 et 2 800 000 dollars à produire. Avec ce succès phénoménal viennent aussi les retours habituels, comme ce scénariste qui a affirmé avoir proposé un projet semblable d'une série pour enfants en 1977. Nous sommes à la rentrée 2005, c'est la saison 2. Les naufragés vont devoir composer avec de nouveaux survivants du crash d'avion, ceux de la queue de l'avion, les Tellys, comme on dit. Anna Lucia, interprétée par Michelle Rodriguez, la badass de Fast and Furious. Libby, interprétée par Cynthia Watros. Et le très étrange Mister Echo. À l'exception de ce dernier, tous les autres seront éliminés vers la fin de la saison. Tout comme Shannon, d'ailleurs, qui va se faire abattre par Anna Lucia. Sous la trappe se trouve un bunker, où vit depuis 3 ans Desmond, un homme qui a pour tâche d'entrer régulièrement une suite de chiffres, la même suite que Hurley connaît bien, dans un ordinateur. Et cela empêche une déflagration électromagnétique. Et c'est parce qu'un jour, il a loupé son rendez-vous que la déflagration a touché le vol océanique 815 qui passait à ce moment-là. Le bunker où il est a été créé par la société Dharma Initiative, une organisation dont on avait déjà aperçu le logo sur un requin pendant la saison 1. Elle est gérée par la fondation ENSO et c'est une société créée dans les années 70 qui a pour but d'étudier les forces électromagnétiques de l'île et accessoirement d'utiliser ses mystérieux pouvoirs. Le bunker n'est qu'une des multiples stations de recherche qu'ils ont érigées dans l'île depuis cette époque. Vers la fin de saison, Jack, Sawyer et Kate sont faits prisonniers par les autres, qui avaient déjà infiltré les naufragés avec des personnages comme Ethan ou avec un certain Harry Gale, un personnage interprété par Michael Emerson, qui ne devrait apparaître initialement que pour 3 épisodes d'ailleurs. Sa performance a entraîné le développement de son rôle. Les 3 héros ont été trahis par Michael, qui a battu Libby et Anna Lucia. En retour, Michael et Walt, son fils, peuvent quitter l'île. Les héros, eux, sont faits prisonniers par les autres, dans une espèce de zoo, un zoo d'où provenait sans doute l'ours polaire du début de la série. Cette saison 2 voit une augmentation de son audience aux États-Unis, 17 800 000 téléspectateurs en quelques semaines et presque 19 millions en moyenne à la fin de la saison. Pour surfer sur la popularité du personnage de Sawyer, ABC demande au producteur que le premier épisode de cette saison 2 tourne autour de lui. Mais après un premier scénario et 3 jours de tournage, ils se rendent compte que ça ne fonctionne absolument pas avec l'arc narratif général de la saison. Le tournage est donc interrompu, un nouvel épisode, le bon cette fois, est mis en production. Alors que l'actrice Cynthia Watros est arrêtée pour conduite en état d'ivresse, Carlton Cuse précise que cela n'a rien à voir avec la fin de son personnage, le personnage de Libby, dans la série. Tout simplement, il était arrivé au bout de son arc narratif. Quant à la trappe, l'un des symboles de la série, elle se trouve dorénavant non pas sur l'île, non pas à Hawaï, mais dans le bureau de Damon Lindelof, aux côtés des Emmy Awards et des modèles réduits de l'avion océanique 815. Cuse, lui, depuis la fin de la série, a gardé l'horloge qui décomptait le temps avant que Desmond ne doive relancer le décompte. Dans la saison 3, Elizabeth Mitchell, de Urgence, va tenir le rôle très important de Juliette, une des autres. Elle a pour but de quitter l'île un jour, donc elle va rejoindre et s'associer aux survivants. Elle avertira Sun que, enceinte, elle est en danger. En effet, aucune naissance ne peut survivre sur l'île. Nous apprenons que la Dharma Initiative, initialement en place sur l'île pour étudier ses pouvoirs, a été décimée par un certain Benjamin Linus, dit Ben. Et en fait, Ben, c'est celui qui s'était infiltré parmi les naufragés sous le nom de Henry Gale. Tout jeune, Ben, à son arrivée sur l'île, avec son père qui rejoignait la Dharma Initiative, s'était associé aux autres, les occupants natifs de l'île, et à leur chef, Richard. Une fois qu'il a éliminé les envahisseurs de la Dharma, Ben et les autres ont pris leur place. On découvrira un peu plus tard que le fameux Richard a en fait échoué sur l'île avec le bateau Black Rock en 1867 et qu'il est devenu immortel. Les producteurs souhaitent que les premiers épisodes aient plus une tonalité d'une série d'aventures avec Jack, Kate et Sawyer prisonniers des autres. Par contre, la destruction du système de contrôle provoque une décharge électromagnétique qui est repérée par Penelope, dit Penny, la fiancée de Desmond. Persuadé que c'est elle qui envoie une mission de secours, Jack va s'opposer à John et donne la position de l'île au bateau chargé de les retrouver. Mais, dans une base sous-marine, Charlie, oui, la rockstar, découvre que Penny n'est absolument pour rien dans cette opération. Trop tard, il va mourir noyé. Et à la fin de cette saison 3, il y a un coup de théâtre qui nous montre non plus des flashbacks dans le passé des personnages pour mieux les cerner, mais des flash-forwards de leur avenir. Ils sont de retour aux États-Unis. Jack tente de convaincre Kate de retourner sur l'île. À partir de là, la série va profondément changer. En effet, après la diffusion des 6 premiers épisodes de la rentrée 2006, une deuxième partie de cette saison 3 de Lost est diffusée plus tard en 2007. Et elle voit une sérieuse baisse des audiences, qui tombe à 11 millions de spectateurs. Même si c'est à relativiser avec les enregistrements numériques, où Lost apparaît quand même comme d'une des séries les plus enregistrées de la saison, ou les 2 100 000 téléspectateurs supplémentaires du replay de la chaîne ABC, la chute d'audience et l'accueil critique plutôt mitigé dû à certains aspects un peu obscurs de cette saison, avec par exemple de nouveaux personnages qui sont extrêmement irritants, sont suffisamment inquiétants pour que Damon Lindelof parle ouvertement de la difficulté de maintenir la trame de la série en la délayant sans cesse, sans savoir le nombre d'épisodes qui leur reste pour arriver à une conclusion satisfaisante. Tant et si bien que Lost obtient un accord absolument sans précédent. En mai 2007, à l'aube de la saison 4, ABC accepte de fixer par avance la fin de la série pour 2010. Elle va commander ferme 3 saisons de 16 épisodes chacune, soit 48 épisodes. Le 119e sera le final. Cela permet en théorie à Lindelof et à son équipe de scénaristes de bâtir la trame maintenant avec un point d'arrivée et de créer des arcs narratifs jusqu'au final. Le producteur et réalisateur de la série Jack Bender nous en avait parlé en 2007 au Festival de télévision de Monte Carlo. C'est la première fois qu'une série à succès annonce quand elle se terminera alors qu'elle est encore en diffusion. Mais c'est la nature même de cette série. Si vous prenez Esprit criminel, par exemple, qui est une excellente série, vous pouvez regarder et apprécier un épisode sans avoir vu les 5 précédents. Lost, en raison de sa narration, demande un certain investissement, une implication, un peu comme un roman. Et je pense que ABC savait quelle était la nature même de la série et que c'était la meilleure façon de la voir. Et Damon a insisté que, afin d'être encore le plus impliqué dans la série, il avait besoin d'écrire en connaissant à quel moment ça se terminerait. Lui et Carlton croient qu'il leur faut continuer d'écrire en sachant que le final est là. Et pas juste de continuer d'écrire encore et encore. Ça serait une faute, autant pour les spectateurs que pour les créateurs de la série. Enfin, un autre sujet un petit peu plus délicat, celui-ci. Des années plus tard, Angeline Lilly, l'actrice qui interprète le rôle de Kate, affirme avoir été quasiment obligée de tourner pour cette saison 3 une scène à moitié nue. Et de même, elle en a fait aussi pour la saison 4. Elle affirme que cela l'a profondément gênée, voire stressée. Lindelof et Cuse, ainsi que le réalisateur Jack Bender, qu'on vient d'entendre, se sont depuis excusés de l'avoir involontairement stressée à ce point. Nous sommes en 2008, c'est la saison 4 de Lost. L'arrivée de sauveteurs sur l'île ne se déroule pas tout à fait comme on pouvait l'attendre. Une équipe de scientifiques menée par Daniel Faraday a plutôt l'intention d'exploiter les pouvoirs de l'île sur le voyage dans le temps. Ils ont pour but de récupérer l'île des mains de Ben via une équipe de mercenaires. En s'alliant aux autres, les survivants sont parvenus à les vaincre. Alors que 6 survivants décident de quitter l'île via l'hélicoptère des mercenaires, Ben, qui a été remplacé à la tête des autres par John Locke, dans un accès de désespoir et dans le but de protéger l'île, va actionner, au plus profond de l'île, un système qui fait que l'île disparaît instantanément. Bon, durant toute la saison, nous assistons aussi à des flash-forward, à la difficile réinsertion des Oceanic Six, comme on les appelle, les 6 qui sont retournés chez eux. Jack, Kate, Hurley, Saïd, Sun et Aaron, nouveau-nés Claire. À la mort de Locke, Jack souhaite les convaincre de revenir sur l'île. Même si le problème narratif semble être réglé, une nouvelle embûche se dresse face à la série. La grève des scénaristes. Eh oui, la saison doit se contenter de 14 épisodes et pas des 16 prévus. De plus, à la fin de la saison, Harold Perrino a publiquement exprimé sa déception devant la façon dont son personnage trouve la mort, quelques mois après son retour dans la série. Et surtout qu'il ne retrouve pas son fils Walt, donc il est vraiment très très frustré. Il va même jusqu'à évoquer le fait que tout ça est dû à un préjudice racial de la part des showrunners Damon Lindelof et Carlton Hughes. La saison 5 de Lost, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est de l'aveu même du producteur Carlton Hughes. Les survivants restés sur l'île alors qu'elle disparaît découvrent, accrochez-vous, qu'elle voyage dans le temps. Comme Ben a détraqué le système, les époques se succèdent, montrant par exemple l'arrivée de la Dharma Initiative. John Locke parviendra à stopper le processus, les survivants se retrouvent donc coincés en 1974. Ils décident de s'infiltrer au milieu des savants de la Dharma Initiative, alors que ceux-ci sont en train de se mettre en place et percent un puits jusqu'au cœur de l'île. Pendant quelques années, les survivants vont même y vivre heureux. Sawyer va être en couple avec Juliette. 3 ans plus tard, en 1977, alors que Jack et Kate les retrouvent, Daniel Faraday émet l'hypothèse que s'ils parviennent, suivez-moi bien, à faire exploser une bombe nucléaire dans le puits, l'énergie de l'île se déversera. La soupape contrôlée par Desmond n'existera donc pas. Donc, pas de crash du vol océanique 815. Le futur sera irrémédiablement changé. C'est ce qu'ils vont faire. Dans un moment ultime, Juliette parvient à faire exploser la bombe. En 2007, je vous avais dit que c'était compliqué. En 2007, John Locke, qui a voyagé dans le temps depuis l'île, tente de convaincre les Oceanic Six, à savoir les 6 qui sont revenus dans notre univers, à tenter de revenir sur l'île. Il échoue et il va se faire tuer par Ben, qui va l'étrangler. Sa mort va inciter les Oceanic Six à revenir sur l'île. Une fois sur place, Locke paraît de nouveau vivant. Mais il semblerait plutôt qu'une entité toute puissante a pris possession de son enveloppe. Ça commence à devenir sacrément barré. Et cette entité toute puissante va éliminer celui qu'on dit depuis le début être le grand maître de l'île, un certain Jacob. Ce rebondissement est l'un des éléments clés de la série. En 2009, Matthew Fox, de retour au Festival de télévision de Monte Carlo, nous en parle. On a eu quelques fins de saison absolument super, mais celle de cette année était très cool. Elle nous a amené à enfin comprendre ce à quoi nous faisions face. La révélation que Locke, qui n'est pas Locke, ça a complètement pris le dessus. Pendant tout ce temps, nous pensions que Jacob était le grand méchant. Finalement, il représente une sorte d'incarnation de Dieu. On arrive vraiment à la fin, la finalité de la série. Je suis très excité de voir comment ça va se passer. Je sais comment la saison va commencer, ouais. Et je sais aussi comment elle va se terminer. L'homme en noir, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a pris l'apparence de John Locke, est en fait le frère de Jacob. Tous les deux sont, tels Caïn et Abel, des frères ennemis. Tous deux sont nés il y a des siècles sur l'île et ont pour fonction de la protéger. Et Jacob est souvent intervenu dans le destin des naufragés à des moments clés de leur vie, quelquefois dès leur enfance, et les a tous effleurés pour découvrir qui sera élu nouveau protecteur de l'île. Et c'est d'ailleurs lui aussi, Jacob, qui a rendu Richard immortel. Dans la saison 6, la dernière saison de Lost, le grand final, Jacob meurt, l'homme en noir, qui était aussi le monstre de fumée, souhaite maintenant pouvoir régner sur l'île et au-delà. Il va tenter d'éliminer les derniers candidats à la succession de Jacob, les uns après les autres. Saïd, Son et Jean perdront ainsi la vie. L'homme en noir va aussi s'opposer aux autres, ça veut dire les vrais et authentiques habitants de l'île. Pas ceux dévoyés par Ben, hein, les autres donc. Et ils sont dans un temple où ils ont recueilli les survivants. Et ils gardent aussi farouchement une fameuse fontaine qui est à l'origine de tous les pouvoirs générés par l'île. À la source de cette fontaine, au fond d'une grotte, le cœur électromagnétique de l'île. Lors d'un affrontement final, l'homme en noir est éliminé par Kate, alors qu'il était presque parvenu à détruire l'île. C'est Hurley, aidé par Ben, qui sera dorénavant le nouveau gardien de l'île, de sa puissance et de ses secrets. La plupart des naufragés parviennent à quitter l'île, Jack, lui, se sacrifie et meurt. Matthew Fox nous parle de cette conclusion et de l'évolution de son personnage, c'était quelques mois avant, en 2009. Ça a toujours été ce que Damon Lindelof et moi avions prévu. Nous n'avons jamais voulu faire de Jack une sorte de chevalier en armure sur son cheval blanc. Nous l'avons imaginé comme un soi-disant héros et tout le monde le voyait comme un leader et un guide. Et nous avons toujours voulu trouver un moyen différent pour avancer. Comme par exemple, qu'est-ce que la véritable bravoure ? Alors nous avons passé 4 ans à le démolir jusqu'à la limite du suicide. Il est parti de l'île, mais l'île le consume à distance. Il voulait se suicider, il est devenu complètement alcoolique, drogué. Il a fini par comprendre et assimiler le fait que son destin est lié à l'île et qu'il était destiné à y faire quelque chose de très important. Et je crois qu'à la minute où il a compris ça, c'était le premier pas vers sa rédemption. Je pense que le moment final de cette série sera très rédempteur. Ça pourrait se finir comme ça, mais c'est trop simple. Parce que l'explosion de la bombe nucléaire dans le puits en 1977, là, si vous vous souvenez bien, a cependant créé une continuité temporelle divergente. Une réalité parallèle. Les producteurs préfèrent appeler ça les « flash sideways ». Donc, une réalité où le vol océanique 815 ne s'est jamais écrasé, et où chaque personnage suit donc un destin extrêmement différent, sans que l'île ne vienne les influencer. Sawyer y est flic, Sun et Jim ne se sont jamais mariés, et cependant ils vont tous cruellement se recroiser, impacter les vies des autres, se souvenir qu'ils ont une étrange connexion entre eux. Lors du final de cette série, cette ligne temporelle s'avère être le fil de la vie que tous les personnages ont tissé ensemble. Desmond avec Penny, Charlie avec Claire, Sun avec Jean, tous y embrassent leur destin et le chemin parcouru alors que, dans la réalité, Jack, sur l'île, ferme les yeux une dernière fois. Avec cela, Damon Lindelof et Carlton Cuse explorent le thème du destin par opposition au libre-arbitre. Un thème qui fait penser à l'opposition homme de foi, homme de science des deux premières saisons. Quelques semaines après la diffusion de ce dernier épisode, Rory Garcia, qui tient le rôle de Hurley, le nouveau donc patron de l'île maintenant, était au festival de télévision de Monte Carlo. On lui a bien sûr demandé de nous expliquer cette fin, et surtout si les naufragés étaient morts ou pas.
On the island, we weren't dead.
Sur l'île, on n'est pas mort. Mais tout le monde finira par mourir un jour. Les personnes que vous avez vues mourir dans la série... Libby, qui se fait tuer par Michael. Ou Jack, qui est blessé et qui ferme les yeux à la fin. Ça, c'est le moment où il meurt. Quand Hurley va-t-il mourir ? Je ne sais pas. Sûrement après qu'il ait tout réglé sur l'île. Quand Ben mourra-t-il ? Je ne sais pas. Locke, on sait que Ben l'a étranglé. Il y a eu toutes ces aventures. Et ensuite, certains sont morts. Et puis, dans cette autre dimension, ils se retrouvent. Tout ce que je sais sur les sideways, c'est que quelque part, c'est une création de leur conscience collective. Ou de celle de Jack. Mais cette conscience collective créa cette autre réalité de telle manière qu'ils puissent tous se retrouver après leur mort afin qu'ils puissent accéder ensemble à l'autre côté. Ensemble.
So then they can move on to the next plane. Together.
Si cette dernière saison fait une moyenne de 10 millions de spectateurs, le premier et le dernier épisode font respectivement 12 et 13 500 000 spectateurs. Bien sûr, le prix du spot de pub inséré dans l'épisode final est en hausse et passe à, accrochez-vous, de 214 000 dollars à 900 000 dollars pour 30 secondes de pub. Le 13 mai 2010, soit quelques jours avant la diffusion du tout dernier épisode de Lost, George Lucas écrit une lettre aux producteurs, les félicitant pour Lost et leur confiant que lui, il n'avait aucune idée de comment Star Wars allait se poursuivre, mais que le truc est ensuite de prétendre le savoir. Il les félicite d'autant plus que, et je le cite, « il est impressionnant de voir à quel point vous avez prévu les choses ». La lettre de George Lucas est maintenant affichée dans le bureau de Damon Lindelof. Le final de Lost a été généralement absolument conspué par les spectateurs. Mais Damon Lindelof affirma, et je le cite encore, « autant je suis à l'écoute de ce que pensent les spectateurs, autant je ne peux pas en être esclave ». Lost était l'histoire de gens sur une île au milieu de nulle part, mais métaphoriquement, ils étaient perdus dans leur vie, à la recherche d'un but ou d'une rédemption. Le final devait refléter ça. Et c'est aussi ce que Carlton Cuse, le coproducteur de la série, m'avait confié en 2013. Je pense que quand nous avons écrit le final de Lost, je savais que certains allaient aimer et d'autres pas. Moi, ça me va. J'ai accepté ça. C'était impossible que la fin de Lost fasse l'unanimité, que tout le monde en soit satisfait. Nous avions écrit la série que nous souhaitions écrire. La fin est notre fin. C'est la fin qui nous satisfait et dont nous sommes contents. Je suis désolé que des gens ne l'aiment pas. Je remercie ceux qui l'ont apprécié. J'ai constamment des retours positifs sur Twitter de la part de gens qui découvrent la série et la voient pour la première fois. À l'époque où vous l'écriviez, vous pensiez que vous en seriez prisonnier, que vous alliez en parler durant toute votre vie ? Je pense que c'est une preuve merveilleuse que les gens veulent parler encore de Lost. La plupart des gens ne veulent pas parler d'une simple série télé. Elle s'arrête et ça disparaît. Il y a réellement une qualité dans le fait qu'on veuille toujours parler de celle-ci. J'ai accepté le fait que des gens l'aimaient et d'autres non, et c'est comme ça. Mais je n'échangerai rien de tout cela. J'ai adoré les 6 années à la faire. C'était un chapitre extraordinaire de ma vie. Depuis la fin de Lost, celui qui était la première et la dernière image de la série, Matthew Fox, n'est pas revenu dans une série télé. Il a été plutôt mentionné à la rubrique « Faits divers » des magazines, avec des arrestations pour conduite sous influence et des accusations de violence envers les femmes. Accusations d'ailleurs dont certaines venaient de Dominic Monaghan. Depuis, Damon Lindelof, le co-créateur, a conçu l'exact opposé de Lost avec la série The Leftover. Parce que dès le début, Lindelof avait clairement affirmé que son concept initial ne serait jamais expliqué, ce n'était pas le sujet de la série. Carlton Cuse, lui, de son côté, produit quantité de séries de Bates Motel à la version américaine des Revenants, en passant par The Strain. La plupart des comédiens de la série sont intervenus dans plusieurs autres productions. Josh Holloway, par exemple, a été vedette de séries comme Intelligence et Colony. Il a été aussi dans le film Mission Impossible Protocole Fantôme. Evangeline Lilly a incarné Toriel dans les films de Hobbit et la guêpe dans le second film Ant-Man. Michael Emerson, le diabolique Ben, a conclu 5 saisons de Person of Interest. Elizabeth Mitchell, Libby, a continué dans V, dans Révolution, dans Once Upon a Time et dans Crossing Line. Rory Garcia est dans Hawaii Five-O aux côtés de Daniel Day-Kim. Et Dominic Monaghan va bientôt retrouver J.J. Abrams parce qu'il va jouer dans le prochain Star Wars. Bon, J.J. Abrams justement, pas revenir sur ses succès cinématographiques, hein, ça serait vous faire affront. Il a cependant créé ensuite avec Alex Kurtzman et Roberto Orci des séries comme Fringe et il a lancé la production de séries comme Alcatraz, Révolution, Almost Human, Believe, Person of Interest et sa dernière production en date est ni plus ni moins que Westworld. Enfin, s'il n'est pas envisagé de faire une suite à Lost, jamais, il existe, accrochez-vous, une comédie musicale parodique, Lost the Musical. J'invente rien. Il y a eu 16 chansons faites pour cette comédie musicale. La semaine prochaine, un Previously exceptionnel, comme vous le savez sans doute, Downton Abbey arrive au cinéma, dans un long métrage sur grand écran. Pour fêter ça, le prochain Previously sera entièrement consacré à la série et au film Downton Abbey. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.